Bonjour, bienvenue sur Fréquence YY. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour notre première émission. Tous les chroniqueurs et les chroniqueuses vous souhaitent la bienvenue et une bonne écoute.
Fréquence YY.
Ce qu'il faut savoir sur ce bistrot, c'est qu'il fait partie d'une résidence, mais il n'y a pas que les résidents qui peuvent venir, et c'est un coin de rencontre bien.
Ben, le bistrot est ouvert aux résidents d'Icare et aux anciens résidents d'Icare qui peuvent être adhérents, et on y trouve un très bon café, et c'est sympathique, ça permet de voir des gens, un lieu de rencontre, une association culturelle qui organise des concerts, du théâtre... Et donc aussi bien au sein du bistrot que dans une salle polyvalente juste à côté. Et voilà.
Ok, on va pas pouvoir en parler mieux qu'en chanson. C'est le tube du bistrot avec Camille, Guillaume et Martial.
Bah, ça illustre bien ce qu'est un peu Icare. Ça tourne un petit peu autour de ce qui s'y passe. C'est bon ?
Il était au bistrot d'Icare, un joli petit tableau noir où sont inscrits et l'on peut voir tous les spectacles des prochains soirs. Il était au bistrot d'Icare, un endroit où l'on peut s'asseoir avant que l'écoute ne se barre. Ça tient debout toute une histoire. Il était au bistrot d'Icare, des rescapés de nulle part, des gens qui ont repris espoir juste avant qu'il ne soit trop tard. Il était au bistrot d'Icare, un endroit où l'on peut s'asseoir avant que l'écoute ne se barre. Ça tient debout toute une histoire. Il était au bistrot d'Icare, des éducateurs qu'il faut croire, ils nous font part de leur savoir, ce ne sont pas des lèvres tard. Il était au bistrot d'Icare, un endroit où l'on peut s'asseoir avant que l'écoute ne se barre. Ça tient debout toute une histoire. Il était au bistrot d'Icare, tous les membres de la fanfare, on vient pour tout sauf pour boire, pas de cactus pour nos déboires. Il était au bistrot d'Icare, un endroit où l'on peut s'asseoir avant que l'écoute ne se barre. Faut changer l'air à la guitare.
Fréquence Y.
Le bistrot d'Icare, c'est aussi une saison culturelle. Cette année, nous avons reçu le groupe Cargo, un trio de contrebassistes. Nous sommes allés à leur rencontre, nous leur avons posé quelques questions. Voici l'interview suivie d'un extrait live. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi la contrebasse ? Pourquoi avoir choisi cet instrument ?
Chacun son tour.
Ouais. Chacun son tour.
Chacun son avis.
Oh, c'est une affaire de son, tout simplement. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est juste que, enfin, pour ma part, c'est une espèce de sensibilité au son particulier de cet instrument qui fait que bah, ça doit me vriller un petit peu le cœur à des endroits que j'aime bien, quoi. C'est pas réfléchi, c'est pas par rapport à un placement dans l'orchestre. Bon, après, j'ai pas fait ma psychanalyse, donc. Je voudrais pas m'étaler sur le sujet.
Vous êtes vexé.
Je pense qu'on a des oreilles aussi qui sont attirées par les graves. Genre moi particulièrement, je préfère les graves aux aigus. Il y a pas photo. C'est, voilà. Après c'est personnel. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un très bel instrument qui a plein de sonorités différentes, plein de richesses de sons. Très intéressant de l'exploiter.
Pour ma part, je jouais dans un groupe de chansons françaises, donc j'étais à la basse électroacoustique. Et en parallèle, on voulait monter un groupe de jazz manouche, et voilà, bah, c'est pour ça en fait j'ai chopé une contrebasse pour pour pouvoir avancer dans le groupe. Voilà.
D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce nom, Cargo ?
Alors, c'était le fait qu'il y ait une embarcation. Ça nous plaisait. Le fait que ce soit massif comme un cargo, c'est lié à l'instrument qu'on joue, puisqu'il est assez imposant. Et que, en fait, dans une idée de voyage, en fait, on s'est dit que ce nom cargo qui transporte des marchandises, qui est bon, certes un symbole commercial, mais bon, c'est pas trop l'image qu'on en avait dit.
C'est plus le côté brut de
l'objet. Il y a aussi le métal, voilà, l'élément du métal qui est très présent, effectivement. Et puis il y avait le côté massif. Mais voilà, c'est tout ça.
Et donc ce projet d'allier trois contrebasses ensemble, c'est venu comment en fait ?
Ben c'est en fait avec Benoît, on se connaît depuis une bonne paire d'années. Et il y a 2 ans, en fait, il a eu une carte blanche sur un festival à Montbard qui s'appelait.
Le
Festival des Curiosités. Et ça faisait un moment qu'on en parlait, que quand on se voyait, ouais, ce serait chouette de faire un truc avec les contrebasses. Et là, bah, c'était l'occasion, en fait. On a monté le trio à cette occasion-là.
Et 2 hommes, une femme, ça, pourquoi vous ne respectez pas la parité, en fait ?
Parce qu'à 3, c'est chiant.
Je l'ai écouté.
Ben voilà.
Eh ben, dis donc, à question con, réponse con. Si on avait monté un quatuor, bon, d'accord, on aurait pu discuter.
Alors pourquoi venir jouer ici au Bistrot d'Icare ?
La thune.
Principalement la thune.
Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre trio en particulier qui compose ? Comment ça se passe au niveau des compositions ?
Non, au début c'était un peu plus comme ça. Moi j'avais apporté 4-5 compos, qu'on a gardés ou pas d'ailleurs. Et puis après on les a refaçonnés. Puis après, Léo, elle a apporté des compos, Marc a apporté des compos.
D'accord.
Ou alors des petits bouts, ouais, simplement des bouts, des séquences. À la fin, plus ça va, plus on compose ensemble.
Des fois, voilà, on joue quelques notes comme ça, et il y a une ambiance qui se dégage, et on creuse.
Ouais.
Voilà, et les morceaux naissent comme ça, souvent. Là.
Mais ça nous intéresse de travailler les compos à trois, ouais. En fait. Parce que chacun apporte sa patte. Et,
ouais.
C'est plus intéressant.
Ouais. Ok, et vous avez des inspirations particulières, des musicales ou cinématographiques.
On s'est bien inspiré de Dao.
Ça
s'écrit Diamarsichtische Abend Unterhaltung.
C'est une abréviation.
Dao, voilà, c'est D-A-A-U. Je ne tiens pas à le dire une deuxième fois, même.
C'est D-A-A-U.
Si vous deviez refaire la bande originale d'un film, vous choisiriez quel film ?
On aime bien tous les univers de Lynch, tout ça.
Ouais. Polar, c'est quelque chose de fou, de sombre, un peu. Je sais pas comment dire. Alors, le film est peut-être pas sorti, mais ce serait plutôt un film policier.
Est-ce que vous avez déjà sorti un disque qu'on peut trouver
Non. Non, tout simplement parce que la formation elle existe depuis 2 ans et demi. Il y a eu quand même pas mal de recherches, de compositions, donc on a juste enregistré une petite démo de 3-4 titres qui sont sur Facebook, je crois.
Oui, les morceaux sont sur Facebook, il y en a 3.
Il y en a
3.
deux sur 3.
Mais bon, on a fait ça vite fait chez un pote qui avait du matériel, tu vois. Mais là, on aimerait bien enregistrer un vrai album.
Oui, en restant simple et. Tout en restant simple et humble.
Oui.
Alors, on va vous présenter des brèves du comptoir du Bistrot d'Icare. Donc, vu et entendu au Bistrot d'Icare.
J'ai vu dans le journal qu'on allait bientôt déménager sur Mars.
Ah non, hein, moi je viens d'emménager, je déménage pas tout de suite. Hein.
Oh là, j'ai des fourmis dans les jambes. Je sais pas ce qui m'arrive.
T'as regardé si t'avais pas du sucre dans tes poches ?
Bande de canailles sur Fréquence Wayway.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui.
Ok, donc vous êtes chroniqueuse ici sur cette émission. Aujourd'hui, vous allez nous parler de...
La mode.
La mode. Oui. Alors, cet hiver, qu'est-ce que vous avez observé chez les gens ? Leurs manteaux, leurs chaussures, leurs écharpes ?
Eh bien, plutôt la coupe de cheveux. Alors, ce qui est très à la mode cette année, c'est le carré dégradé. Mais, enfin, surtout cet hiver. Mais ça reste classique par rapport à une autre mode, ça s'appelle le Rainbow Hair, qui consiste en fait à avoir des cheveux colorés, mais de couleurs très vives, très flashy, comme le rose, le vert, le bleu, tout ça, tout ça. Ça peut être très joli, mais c'est vrai que c'est un peu provocateur.
Est-ce qu'à votre avis, tout le monde pourrait le porter ?
Bah non, enfin non justement, en fait, on rentre dans le débat du fait que par rapport à son métier, on ne peut pas se coiffer comme on veut, comme banquière ou journaliste ou enfin à la télévision en tout cas.
Un exemple par exemple ?
Comme Claire Chazal par exemple.
Claire Chazal, en quelle couleur ?
Je sais pas, rose.
Rose. Ah oui, c'est vrai que tout de suite, c'est moins sérieux. D'accord, d'accord. Et puis comment du coup on se fait cette coiffure ?
Bah c'est, ça parle de décoloration, donc on se décolore et on se colore les cheveux. Mais il y a aussi des produits qui durent moins longtemps, comme le feutre ou la craie.
D'accord, donc pour une soirée, on peut être en toutes les couleurs si on a décidé.
Voilà.
Eh bien écoutez, merci de cette information, parce que moi personnellement, je ne connaissais pas ce principe du Rainbow Hair.
Personnellement, je ne pense pas tester prochainement, mais je trouve ça très intéressant comme concept capillaire.
Quant à moi, je n'ai pas tout compris en matière de cheveux, mais de toute façon, j'ai plus de cheveux. C'est pas un problème.
Fréquence Wayway.
Je vais laisser Béatrice maintenant parler voilà, d'un sujet qui la touche et puis qui nous intéresse tous ici autour de la table. Le travail, voilà.
Le travail obligatoire. Souvent, on est partagé entre travailler et entre guillemets ne rien faire. C'est vrai qu'il est plus valorisant de toucher un salaire que de dépendre d'aide telle que l'AAH. Nous pouvons être poussés à retravailler. Et si ce n'est pas le bon moment, avoir pour conséquence de retomber malade. Une question revient souvent. Est-ce que tu retravailles ? Commencer par une activité à temps partiel peut déjà se révéler une bonne alternative. En plus, cela laisse du temps à consacrer à sa famille ou à ses amis. Il est également possible de se sentir impliqué dans des associations ou dans du bénévolat. En finalité, je pense que c'est la personne concernée qui sait quand c'est le bon moment et non les personnes extérieures. Allez, respectez nos choix.
Et ben moi, au sujet de ça, du travail et de l'AAH, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'en discutais justement hier avec une amie, qu'il y a une réglementation au niveau de ça avec la CAF, c'est-à-dire que si on touche l'AAH et qu'on commence à travailler... ça dépend combien on touche, mais en fait, des fois, ça peut vraiment pas nous arranger. Par exemple, on perd de l'AAH, même au bout d'un moment, on la touche plus. Et donc, des fois, c'est même pas plus avantageux, en fait. Voilà.
Moi, j'ai trouvé très intéressant l'intervention de Béatrice, parce que je trouve que c'est un sujet très important. Le travail, ça fait partie de la vie, comme on dit, mais il y a certaines périodes où on ne peut pas travailler, c'est pas pour ça qu'on n'existe pas, et c'est pas pour ça qu'on ne fait rien de notre vie. Et c'est important de le souligner. Il y a plein d'autres choses dans la vie que le travail, et c'est important, comme disait Béatrice, de reprendre progressivement, pourquoi pas par un temps partiel ou voilà, et à son rythme, et ne pas céder à la pression de la société forcément.
Bonjour Luc, vous êtes prêt ?
Oui, je suis prêt, Marine.
Vous nous avez préparé quelque chose pour Fréquence YY ?
En effet. Voilà, alors, dans le cadre de l'émission, on m'a remis des facsimilés des journaux de 1903-1907. Et sur les quatre journaux que j'ai reçus, il y avait quatre ou cinq articles du Tour de France. Et en fait, c'était les premiers Tours de France. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il n'existe qu'un quotidien sportif, le vélo, considéré comme Dreyfusard.
Dreyfusard, ça veut dire quoi ?
Dreyfusard, c'est-à-dire que dans l'affaire Dreyfus, il y avait les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Donc, pour synthétiser, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais les Dreyfusards étaient plutôt de gauche et les anti-Dreyfusards plutôt de droite. Donc voilà, le quotidien Le Vélo était plutôt Dreyfusard. Alors, il se trouve que la plupart des industriels du cycle et de l'automobile sont anti-Dreyfusard. Ils sont donc favorables à la création d'un journal concurrent, l'Auto-Vélo, dirigé par Henri Desgranges. Le journal perd une partie de son nom devant les tribunaux et doit donc s'appeler au final l'Auto. Desgranges a peur que ce changement de nom affecte les ventes du journal. Alors, pour riposter, il crée le Tour de France le 19 janvier 1903, intitulé dans le journal L'Auto, la plus grande épreuve cycliste jamais organisée.
Et du coup, ben, quel en était l'écho médiatique dans la presse nationale ?
Alors, le 20 janvier 1903, il y avait juste un tout petit article dans le Figaro qui annonçait l'arrivée de la plus grande épreuve. C'est vraiment un article de quelques lignes très succinct. Et en fait, l'épreuve se déroule tout le mois de juillet. Et c'est à ce moment-là que deux quotidiens vont assumer l'écho médiatique, c'est-à-dire le journal L'Auto et un deuxième qui doit s'appeler La Presse, je crois.
D'accord, donc c'était bon pour le journal et pour ses ventes.
C'était le but premier de la création du Tour de France.
Dans quel état d'esprit se déroulait le Tour de France à son lancement ?
Alors, le Tour de France, il a été créé dans une volonté d'unité nationale pour un peu rassembler tout le pays. C'est ce que j'ai pu comprendre de ma lecture des articles. Mais en fait, très vite, les spectateurs font preuve d'un chauvinisme local. C'est-à-dire que ils soutiennent leurs coureurs régionaux au détriment des autres. Et ouais, il faut savoir qu'au début, le Tour de France, il y a beaucoup de coureurs qui sont français. C'est surtout des Français. Et donc, il y a des petites guéguerres comme ça, avec des clous ou des tessons de bouteilles semés sur la route. Voilà. C'est assez cocasse. Et ça n'a rien à voir avec le professionnalisme de ces dernières années, quoi. Je peux vous lire un article de La Presse du 11 juillet 1904. Il faut savoir que les articles s'intitulent « Vélocipédie » à l'époque. La deuxième étape, Lyon-Marseille du Tour de France 1904. Alors, à Saint-Étienne, aux 58 km, la route est semée de clous et de tessons de bouteilles. Une grande effervescence règne au contrôle. On accuse certains coureurs concurrents de ne pas avoir observé les règlements de la course. Incident. Maurice Garin est fortement sifflé à son passage au contrôle de Saint-Étienne. On l'accuse d'irrégularité. Plusieurs spectateurs veulent assommer le coureur, que des automobilistes dégagent leur revolver au poing. Des coureurs annoncent qu'à La République, petit village situé avant Annonay, des voyous ont tiré sur eux des coups de revolver. Personne, heureusement, n'a été atteint. Voilà pour l'ambiance du Tour 1904. Dès 1904, la course est victime de son succès et agitée par des scandales. Dans la première étape, Maurice Garin et Lucien Potier sont agressés par quatre hommes masqués dans une voiture. Maurice Garin est le vainqueur de cette deuxième course, avant une fameuse affaire qui fera sensation dans le Tour de France. C'est une affaire de tricherie qui, au final, entraîne la disqualification des quatre premiers coureurs du général. Au total, 29 coureurs sont disqualifiés. Et le 2 décembre 1904, c'est Henri Cornet qui obtient la victoire finale, si je puis dire, sur tapis vert. Alors, à cause de ces scandales, Desgrange pense arrêter le Tour de France. Il change d'avis et modifie les règles pour empêcher les tricheries. Le Tour 1905 se courra avec un système de points. Le Tour de France 1905, nouveau règlement. Les étapes sont raccourcies afin de plus rouler la nuit. Le nombre d'étapes passe de 6 à 11. Le gagnant est désigné à l'aide d'un classement au point et non plus au temps. Malgré ces changements, il reste des mécontents parmi les spectateurs. 125 kg de clous sont dispersés sur la chaussée lors de la première étape. Et tous les coureurs crèvent, sauf un. Et le vainqueur final se nomme Louis Trousselier. En 1906, la tricherie et les sabotages restent au programme du Tour de France. Quatre coureurs sont disqualifiés pour avoir pris le train comme raccourci et des spectateurs continuent de jeter des clous. L'introduction des épreuves de montagne avec le spécialiste René Potier, qui se retrouve seul en tête dans la cinquième étape, s'arrête dans un bar, commande une bouteille de vin, la boit. Lorsqu'il voit passer ses poursuivants une heure après, Potier remonte sur son vélo, les rejoint et remporte l'étape. Pour René Potier, vainqueur de l'épreuve 1906. Alors, le Tour de France 1907. Le vainqueur du Tour en 1906, René Potier, s'étant suicidé, il n'est pas présent pour défendre son titre. Ce qui peut se comprendre. C'est une raison valable. Cette année-là, pas de sabotage au programme, mais la tricherie continue. Le 26 juillet, le leader Émile Georget est sanctionné de 44 points pour avoir changé de vélo au cours de l'étape Toulouse-Bayonne. Il se retrouve dernier du classement. La première place revient donc à Lucien Petit-Breton, qui court sur une machine poinçonnée, c'est-à-dire qu'il fait partie des coureurs sans sponsor ni équipe.
Vous pouvez peut-être nous parler, à l'époque, ils étaient récompensés combien, et puis actuellement, pour qu'on comprenne un petit peu l'écart.
Les coureurs payaient un droit d'entrée qui était de 10 francs, ce qui correspond à 80 euros d'aujourd'hui. Et le premier vainqueur du premier tour touchait 3000 francs. 3000 francs de l'époque, 2000 francs pour le deuxième et 1200 pour le troisième. Voilà. Et en 2014, Vincenzo Nibali a touché 450 000 euros rien que pour être premier au classement général, sans compter les primes et tout le reste.
Merci pour toute cette chronique, pour toutes ces informations. On a appris plein de choses.
Merci.